CKNC 89.5, Toronto.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance,
Tierra de Alianza.
Este es Terre d'Alliance,
sur France Inter.
France Inter,
con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, musique. L'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser ? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Potpourri Show. Noir et Psy.
Faire confiance. Merci.
oui, madame, monsieur, bien le bonjour à Popourri Show, 33 ans déjà, CUT 89,5 FM, de dimanche de 11h à 13h. La radio comme je l'aime. Et vous pouvez nous envoyer vos messages si vous souhaitez nous écrire ou participer à notre émission. Vous voulez vous abonner à notre émission ou créer un partenariat avec nous, alors pourquoi pas, popourri@cut.fm, ou télécharger automatiquement notre émission, où que vous soyez à travers la planète, www.popourrishow.com. L'ingénieur du son DJ Devera, accompagné de notre chroniqueur, nouveau chroniqueur et partenaire, nous sommes très fiers, Maître Peter Biro, qui sera des nôtres dans la première demi-heure, animation et production, Eric Kader sur www.cut.fm. Et oui, plus de 80 000 dollars, me dit-on, still counting, me dit-on. Vif succès de la dernière campagne de financement de la radio. Merci à ceux et celles qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance depuis plus de 33 ans. Merci à ceux et celles qui étaient au Lula Lounge mercredi soir. Très bonne ambiance, de très belles retrouvailles. Merci du fond du cœur à tous nos donatrices, donateurs, surtout francophones, francophiles. Vous êtes nombreux. Et si vous êtes qualifiés pour recevoir des tucs ou encore des t-shirts ou d'autres cadeaux, n'hésitez pas à nous envoyer un message popourri@cut.fm. Pour savoir si vous êtes vraiment qualifié, allez sur notre site www.cut.fm. Faites vite, les cadeaux s'envolent comme des petits pains chauds. Petit au menu aujourd'hui, en ce dimanche 24 novembre 2019, petit détour chez nos amis du Sud, où certains médias ont battu un record d'audience suite au témoignage dans l'enquête sur la destitution de Donald Trump. Est-ce une chasse aux sorcières? Quelle est la perspective d'un Canadien? Maître Peter Biro, notre nouveau chroniqueur, sera des nôtres. 22e édition de Ciné Franco qui a été lancée vendredi soir avec beaucoup de monde enthousiasmé. Et oui, en tant que partenaire confirmé, Popourri Show accorde une grande place à Ciné Franco et nous avons l'immense plaisir d'accueillir à nos micros aujourd'hui le réalisateur marocain Saad Chraibi et du film Les 3M, Histoire inachevée. Claude Guillemin sera des nôtres, il est réalisateur du film Sur la corde raide. Antigone, un film puissant et déchirant de Sophie Deraspe. Et oui, film coup de poing sera des nôtres avant la fin de l'émission. Et si vous souhaitez gagner les billets de Ciné Franco, faites vite. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour aller voir un des films. Répondez à la question suivante. Quel est le pays d'origine de Marceline, la fondatrice de Ciné Franco? Envoyez-nous un message immédiatement à popourri@cut.fm. Message électronique seulement. Popourri Show, 33 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et CUTFM, la radio comme je l'aime. Les buzz de la semaine, des étudiants franco-ontariens désemparés après l'annulation d'un programme d'enseignement. Certains chercheurs et professeurs craignent que cette régression de l'offre des facultés d'éducation de langue française ne pousse davantage d'étudiants franco-ontariens vers les facultés de langue anglaise. Et puis, nous venons d'apprendre que le tribunal ontarien annule une mesure permettant aux étudiants de se soustraire aux frais de services non essentiels, y compris CUTFM. Le 21 novembre dernier, la Cour divisionnaire de l'Ontario a unanimement décidé d'annuler une mesure prise par le premier ministre du gouvernement de l'Ontario, Doug Ford, permettant aux étudiants de niveau postsecondaire de ne plus payer les services jugés non essentiels. On en revient de cette décision très importante tout au long de l'émission. Des violences ont éclaté lors d'un mouvement de protestation d'étudiants pro-palestiniens contre une apparition de réservistes de l'armée israélienne. Cela s'est déroulé mercredi soir à l'Université York de Toronto. Cette table ronde avait été approuvée par l'Université. Question. Jusqu'où doit aller la liberté d'expression? Devons-nous censurer ou bannir ce genre de débat sur nos campus? Le maire de Toronto et le premier ministre du Canada ont condamné ces violences. Le premier ministre de l'Ontario a réagi sur son compte Twitter et je cite « J'ai été choqué par la haine qui a été exposée hier soir à l'Université York. J'étais clair sur le fait qu'il n'y a pas de place en Ontario pour le racisme et la haine. Mon caucus et moi-même soutenons les étudiants de l'Université York qui ont dû endurer cela. » Selon un article de Radio-Canada, après des mois d'enquête sur les dépenses de la passerelle ID, Santé publique Canada a décidé de suspendre officiellement son entente de financement avec l'organisme francophone pour ses activités de prévention du VIH. Le gouvernement Ford dit avoir depuis ordonné l'organisme de rembourser 105 000 $. Ces sommes devaient servir à la formation de nouveaux arrivants, mais n'ont pas été dépensés comme prévu, selon le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences. Justin Trudeau et Doug Ford enterrent la hache de guerre. Eh oui, Doug Ford est allé même plus loin en qualifiant la rencontre de phénoménale. Les deux hommes se sont engagés à mettre leurs différends de côté pour se concentrer sur les priorités des citoyens et l'unité du pays. Forte hausse des demandes d'expulsion des locataires non fautifs à Toronto. On en parle très prochainement. Qui sont les 500 scientifiques qui affirment qu'il n'y a pas d'urgence climatique? Très peu sont des climatologues. Plusieurs ne sont même pas des scientifiques ou bon nombre d'entre eux ont des liens avec des groupes de pression climato-sceptiques. À Montréal, vive altercation entre des étudiants de l'UQAM, l'Université de l'UQAM, qui manifestaient contre les réformes touchant l'immigration et la loi sur la laïcité du Québec. Certains manifestants favorables à la loi sur la laïcité de l'État, dont un portait un drapeau des patriotes, ont causé de vives tensions et d'émotions. En France, agents de la SNCF, de la RAP, professionnels de santé, étudiants, tous seront dans la rue le 5 décembre prochain pour exprimer leur colère et manifester principalement contre la réforme des retraites sur laquelle planche actuellement le gouvernement. Les forces de l'ordre doivent être respectées selon le gouvernement. Toujours en France, violence faite aux femmes, des milliers de personnes et de nombreuses personnalités ont défilé à Paris hier. Du journal Le Monde, devenir vieux avant d'être riche, le risque des pays émergents. Et oui, le nombre de personnes âgées en progression partout dans le monde. L'espérance de vie s'élève à 72, 73 ans dans le monde en 2019, soit 8 ans supplémentaires, 8 ans supplémentaires par rapport à 1990. Le Burkina Faso entièrement déconseillé aux voyageurs selon le gouvernement français. En Afrique du Sud, les Blancs gagnent en moyenne 3 fois plus que les Noirs. En Algérie, une marée humaine s'est répandue vendredi dans les rues d'Alger pour réclamer une nouvelle indépendance. 65 ans, jour pour jour, après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. En Haïti, malgré la crise qui perdure, le président Jovenel Moïse affirme n'être pas prêt à laisser le pouvoir au profit de l'opposition qui ne cesse de réclamer son départ. Et l'UNICEF et l'UNESCO appellent à l'ouverture immédiate des écoles. Chez nos voisins du Sud, à l'issue d'une série d'audiences publiques au Congrès sur l'affaire ukrainienne, où les témoins, plusieurs diplomates, ont livré de nombreux éléments à chaque charge contre Donald Trump, ce dernier a choisi l'émission matinale Fox and Friends pour répondre. Et oui, pendant 53 minutes, dans un flot presque ininterrompu et par moments incohérent, le locataire de la Maison-Blanche a montré combien il avait été piqué au vif par cette enquête qui pourrait laisser une trace indélébile sur son mandat. « Je veux un procès », lâche-t-il au bout du fil en évoquant la suite de la procédure. moment historique, madame, monsieur. Enquête sur la destitution de Donald Trump. Est-ce une chasse aux sorcières, comme il aime le dire? Est-ce que le président américain sera destitué? La chronique de notre nouveau partenaire et chroniqueur Peter Biraud, qui est avocat, homme d'affaires, grand défenseur passionné des libertés civiles, des droits de la personne, de l'engagement civique, de la conservation de la faune et du bien-être des animaux. Bonjour maître Peter Biraud, la parole est à vous.
Ah bonjour monsieur, eh bien, plaisir d'être avec vous. Alors après 5 jours de témoignages publics exténuants prononcés par une douzaine de témoins, l'enquête de mise en accusation à la Chambre a révélé que le président Trump avait dirigé une campagne visant à amener le dirigeant ukrainien à enquêter sur les démocrates en échange d'une réunion du bureau ovale. Les démocrates pensent bien qu'ils ont prouvé tout ce dont ils avaient besoin, parfois de manière dramatique, en rassemblant constituer un défilé de témoins à charge. Pourtant, rien n'indiquait que le témoignage dommageable avait convaincu les législateurs républicains d'appuyer le renvoi du président ou sa condamnation. Un procès au Sénat durerait probablement au moins 2 semaines et commencerait en janvier si la Chambre votait pour la destitution cette année. Alors, on va voir. Trump deviendrait le 3e président de l'histoire des États-Unis à être destitué, même si aucun républicain ne l'appuyait. Trump, bien que Trump ait invité le président Zelensky à la Maison-Blanche en mai, excusez-moi, ses collaborateurs ont clairement indiqué que la réunion convoitée ne se déroulerait pas tant que Zelensky n'aurait pas annoncé les enquêtes qu'elle souhaitait. D'ailleurs, il ne l'a jamais fait et il n'a jamais eu la réunion à la Maison-Blanche. Trump a également retenu près de 400 millions de dollars d'aide à la sécurité Ukraine. Les armes et autres aides ont été rendues publiques le 11 septembre, après que la plainte d'un dénonciateur, c'est-à-dire le whistleblower, lui était soulevé pour la première fois au sujet. Et bien qu'ils se sont décidés au cours de opposer cette mise en accusation au cours des audiences, les républicains n'ont pas contesté le récit qui a émergé d'une politique à deux voies contradictoire envers l'Ukraine. Une dirigée par un petit groupe autour du président cherchait à renforcer sa candidature à la réélection en 2020 et une autre conduite par les professionnels de la sécurité nationale et de la politique étrangère essayant de soutenir l'Ukraine. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe là. Adam Schiff, le président de la comité a dit que a comparé cet événement à Watergate. Il a dit « Ce dont nous parlons est bien plus grave qu'un petit cambriolage de troisième ordre », a-t-il déclaré, évoquant Watergate. La différence entre hier et aujourd'hui n'est pas la différence entre Nixon et Trump, a dit-il. C'est la différence entre ce congrès et celui-ci. Alors, voilà, c'est mon reportage, ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est très intéressant, c'est très grave.
Oui. Est-ce que vous êtes un ami de John Bolton?
Moi, je ne suis pas un ami de John Bolton, mais il faut savoir que il sait exactement ce qui s'est passé et il devrait, comme patriote, donner son témoignage, mais on va attendre pour voir s'il va venir se présenter envers la comité ou s'il veut simplement vendre ses ton livre qu'il va écrire et qui va être publié l'année prochaine.
Oui. Et David Nunes, tu es dans le chaud, je pense.
Ah oui. Ben lui, c'est quelqu'un vraiment. C'est un méchant, hein. Il faut le dire. C'est un méchant. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la vérité. C'est quelqu'un qui s'est bien décidé que sa priorité va être de défendre le président. Peu importe la vérité, les résultats de toutes les témoignages. Et on voit maintenant qu'il a rencontré à Vienne, en Autriche, je crois au mois d'avril ou mai, l'ancien procureur ukrainien pour obtenir des informations sur l'ancien vice-président Biden.
Mmh. Et enfin, pour terminer, nous avons quelques petites minutes encore. Comment expliquer que quand même il y a plus de 40% des Américains qui soutiennent encore, malgré toutes ces révélations terribles, incroyables, désastreuses au président Trump, qui soutiennent encore ce président? Et aussi, pour terminer, quel est le regard des Canadiens, des médias canadiens en général, si vous pouvez nous en partager votre opinion?
Voilà. En ce qui concerne le 40% des Américains, ils ne s'intéressent pas à la vérité. C'est pas qu'ils ne le croient pas, c'est qu'ils ne s'intéressent pas de la vérité, tout court. Ils sont des défendeurs de Trump, ils sont convaincus que les démocrates voulaient toujours enlever ce président et ne reconnaissaient jamais la légitimité de son élection de 2016. Alors, c'est pas une question de... Peu importe ce qui se passe dans ces témoignages, il ne s'intéresse pas à ça. C'est une question idéologique, c'est une question qui n'a rien à voir avec les faits.
Ça me fait penser un peu à ce genre de culte. Il y a un certain...
Ah oui, c'est un genre de culte. Mais c'est aussi une question de se sentir en tant que population, de se sentir défié et puis maltraité par les libéraux, par les démocrates pendant la période Obama. Alors ils sont avec Trump n'importe comment ça se passe. La vérité n'est pas importante. Hein. Il peut être comme lui l'a dit cependant l'élection de 2016. Il pourrait être au milieu de la rue à New York avec une mitraillette. Ça ne changera pas l'opinion de ces.
Incroyable.
En ce qui concerne les médias canadiens, je crois qu'ils sont bien plus objectif en ce qui concerne les événements en Amérique. Mais nous, on a notre problème avec les États-Unis. Il faut qu'on trouve une façon d'avoir une relation en ce qui concerne la relation économique avec les États-Unis, peu importe qui occupe la Maison Blanche.
Alors justement, aujourd'hui, on va parler de ce film High Wire sur la corde raide avec des réalisateurs, Claude Guillemin, pour justement parler que le Canada était opposé à l'intervention contre la guerre en Irak. Et
oui.
C'était très, très ferme de la part de Jean Chrétien à l'époque.
Oui, oui.
De tenir pas. Il y avait aussi Jacques Chirac en France. Mais c'est bien de voir dans l'histoire qu'il y a eu quand même des dissidences dans la politique entre le Canada et les États-Unis. Et ce sera intéressant de voir comment Trudeau, qui vient d'être réélu, avec un gouvernement minoritaire, comment va-t-il s'y prendre avec un Donald Trump qui est de plus en plus contesté au Canada?
Oui, c'est vrai. Ben, c'est absolument vrai. C'est rare ces moments où le Canadien se montre indépendant. Mm. On a vu cette semaine d'ailleurs une autre exemple, un autre exemple concernant le vote aux Nations Unies concernant le la légitimité de la politique israélienne concernant le settlement. Alors, un autre exemple très rare de l'indépendance canadienne envers les États-Unis, la position.
Maître Peter Bureau, homme d'affaires, très, très impliqué dans la politique et aussi pour les droits civiques, les droits de la personne. Vous nous faites un honneur à chaque fois d'intervenir à la radio. Et donc, on a besoin de cette voix, on a besoin de cette perspective de la part de tous les auditeurs, les auditrices. Et il y en a beaucoup qui vous connaissent, qui vous écoutent en ce moment. Nous venons de recevoir des messages. Je vous remercie infiniment, malgré votre temps très chargé, très occupé. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine à vous et votre famille.
Grand merci.
Au revoir.
Mon plaisir, hein? Au revoir.
CIUT 89.5, Toronto.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines.
Et tout ça. Bah je crois que c'est le destin.
Je suis un mélange de Poutine et de Robert Mugabe. Ce qui donne Vladimir Mugabe. Et c'est moi.
Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Fais-nous ton truc de farauteur. Continue, il n'y a pas qu'en Afrique que tu peux faire ça.
Juliette, comment ça va?
Quel est ton secret?
Place à la parole, place à la palabre.
Tu veux vraiment avoir une villa à Kinshasa? Tu dois finir tes jours là-bas?
Non, je ne me vois pas finir mes jours là-bas, mais ça serait bien que ma mère puisse me dire je suis au spa au deuxième étage en haut. On s'appelle dans deux semaines quand je viens sur Paris. Okay. Ça, c'est bien ça. Ouais.
Je voulais te poser une question qui me démange depuis très longtemps.
Qu'est-ce que ça te fait d'être champion du monde?
Zemmour, si tu m'entends.
Silence, c'est mec.
Franchement, j'aurais pas fait mieux. Ça peut être un concept de mission, carrément.
T'as pas l'impression qu'il y a une espèce de gang de meufs là, qui se met en place?
Hommage au DJ Arafat, décédé cette année.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se disent que pour faire avancer les prochaines générations, il va falloir qu'ils fassent eux-mêmes leur propre autocritique.
On a vu très tôt ce matin, et voilà, on la découvre. Marcel, bonjour.
Bonjour.
Eh oui, vous ne me voyez pas là, mais moi je vous vois.
Non, je ne vous vois pas parce que le soleil est tellement éclatant ici.
Oui.
Et il fait très beau. Hein.
Mais
il fait
27 degrés. Venir nous voir à Fontainebleau. Vous avez visité Fontainebleau?
Oui, oui. Je l'ai visité il y a quelques années et il a été rénové.
Exactement.
Et maintenant, je ne peux plus me permettre d'aller au Fontainebleau.
Pourquoi?
Parce qu'il est devenu très, très cher, vous savez.
Mais non, il faut juste dire pot pourri chaud et le nom de l'équipe de la radio. On vous donne 4 degrés. Céline, beau bonjour et toutes nos félicitations pour cette 22e édition de Ciné Franco lancée vendredi soir. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs auteurs, réalisateurs. Claude Guillemin du film Corde Raide, Saad Chraibi, réalisateur marocain du film Les 3M, Histoire inachevée. Il est à Toronto, dont le film est joué aujourd'hui à 13h30. Cela vous intéresse. Et Sophie Deraspe, qui signe le film Antigone, film coup de poing, nous dit-on, qui parle de l'immigration et la justice pour les jeunes immigrants dans la région de Montréal. Chaque dimanche, Popourri Show aborde des thèmes ou des thématiques et des sujets tels que l'éducation, l'immigration, le cinéma, la question ou les questions LGBTQIA et les questions géopolitiques, la crise du climat et bien sûr les dossiers épineux de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Au-delà de la guerre des mots, nos invités tentent de trouver des solutions, des points de convergence. Et oui, il en faut. Chaque dimanche, de 11h à 13h, Popourri Show vous donne rendez-vous. Depuis 33 ans, nous sommes là pour vous et nous sommes très reconnaissants pour votre fidélité. Toute la diversité du monde sur votre fréquence, 89,5 FM, la radio comme je l'aime. Le film Les Invisibles à l'affiche chez Ciné Franco.
On va vous confronter au monde du travail.
J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi.
Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi?
Non.
Il faut que tu donnes ton vrai nom.
Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari.
Attends, Chantal, j'aime pas mentir.
Mais tu mens.
Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes.
Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes.
Voilà, Audrey, là, elle ment.
Et c'est pas grave.
Je vais rapporter les luminaires de chez moi.
Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle?
22e édition de Ciné Franco, ayant pour thème « Vive la famille ». Du 22 au 30 novembre, toute l'équipe de Ciné Franco vous donne rendez-vous à son prestigieux festival au cinéma Hot Dogs Ted Rogers. Le festival de cette année englobe la richesse et la diversité du cinéma francophone. 22 longs métrages, 11 courts métrages qui saisissent le meilleur des comédiens, mais aussi du drame social. 22e édition de Ciné Franco, du 22 au 30 novembre, le plus grand festival de films francophones hors Québec au cinéma, Hot Dogs, Ted Rogers. Après une année de transition, et oui, et malgré les défis financiers, Ciné Franco ne déroge pas de sa mission, faire résonner la vitalité des cultures francophones avec des thématiques qui englobent les réalités de son public. 22e édition de Ciné Franco, du 22 au 30 novembre, pour les cinéphiles les plus curieux et engagés au cinéma Hot Dogs Ted Rogers. Coup de projecteur sur différentes familles traversant les épreuves. Certaines sont sociétales, comme dans Les Invisibles, d'autres historiques, comme dans Notre-Dame du Nil. Certains réalisateurs ont même adopté un angle religieux, comme c'est le cas pour le film Le jeune Ahmed. Du 22 au 30 novembre, au cinéma Hot Dogs Ted Rogers, 31 films dont 22 longs métrages en provenance du Canada, de la Belgique, de la France, du Maroc et du Rwanda. Pour sa 22e édition et pour notre plus grand bonheur, Ciné Franco accueille des cinéastes et vous propose une programmation qui comprend 4 premières mondiales, 5 premières nord-américaines, une première canadienne, 10 premières du Canada anglais, 2 premières ontariennes et 4 premières torontoises. Alors, qu'attendez-vous? Procurez-vous vite d'un passeport du festival pour seulement 150, oui, je dis bien 150 dollars seulement. Participez à nos jeux concours et nos émissions hebdomadaires. Et qui sait, la chance pourrait vous sourire. Des billets VIP, gracieuseté de notre commanditaire et partenaire de choix, Ciné Franco. Découvrez la programmation complète sur le site de Ciné Franco. Soutenez sa fondatrice Marceline et n'oubliez pas de voter. Eh oui, votez pour votre film préféré. Allez sur le site www.cinéfranco.com ou visitez notre site www.popourrichaud.com. Et monsieur, que signifie Ciné Franco pour vous?
Ciné Franco, pour moi, c'est comme des vins qui se conjuguent avec toutes les saveurs. Un assemblage de vins provenant de plusieurs millésimes. Ciné Franco remplit sa mission avec brio, c'est-à-dire étancher la soif. Point. Je vous invite d'y aller en grand nombre. Et puis, permettez-moi, monsieur, de vous corriger. Ce ne sont pas ceux qui ont de la chance qui sourient. Ce sont ceux qui sourient qui ont de la chance.
Bonsoir à tous, merci de votre attention. En quelques images, voici les faits marquants de cette nouvelle journée de guerre. Des bombardements quasiment ininterrompus sur Bagdad. Le ministère de l'information irakien parle de centaines de blessés et de morts civils. L'état-major américain certifie que seuls les postes de commandement sont visés. Les troupes au sol, elles poursuivent leur progression vers la capitale, mais le doute s'installe sur la stratégie américaine, d'autant qu'un nouvel hélicoptère a été abattu. Tout à l'heure, Tommy Franks a voulu rassurer, mais l'inquiétude est réelle. Les bourses, par exemple, sont en chute libre. Et du coup, c'est Saddam Hussein qui plastronne, c'est l'autre image de la journée.
Et oui, madame, monsieur, voilà un aperçu de ce qui se passait il y a plusieurs années de cela. Et sur la Côte Red revient sur cette histoire. Je vous rappelle que ce film est projeté le 31 novembre prochain à 16h30, un documentaire réalisé, je pense, par l'Office national du film du Canada, en présence de Claude Guilmay et Denis McCready, qui seront sur place le 30 novembre prochain. Claude Guilmay, qui est lui aussi cofondateur du théâtre La Tangente. À l'international, la guerre d'Irak, et oui, le président français Jacques Chirac marqua son opposition à l'intervention contre la guerre en Irak. Vous vous souvenez, le nom de Jean Chrétien demeure un moment marquant pour le Canada. On en parle rapidement avec Claude Guilmay, qui est réalisateur de ce film. Bonjour, cher monsieur Guilmay, Claude Guilmay, vous êtes là?
Oui, allô, bonjour.
Oui, alors voilà, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et merci de prendre le temps de ce dimanche pour nous parler un petit peu de ce film qui sera projeté le 30 novembre prochain. Alors, pourquoi était-il important pour vous de revenir sur cet événement marquant dans l'histoire du Canada?
Ben, je crois que c'est à l'époque où... qu'on vit en ce moment où il se passe où des pays comme le Canada sont appelés à prendre des décisions très importantes. Dans le cas de 2003, c'était de soit d'aller à la guerre ou non, d'appuyer une initiative américaine qui était finalement s'est avérée totalement illégale. Je crois que c'est important de faire un film pour un peu nous donner pas nécessairement l'heure juste, mais au moins nous provoquer, nous pousser à se renseigner davantage avant de dire soit oui ou soit non à une telle initiative.
Oui. Il faut rappeler aux gens, surtout pour les nouveaux immigrants qui connaissent très peu ou pas du tout ce qui s'est passé à cette époque-là, l'ancien premier ministre canadien Jean Chrétien n'a pas été souvent ovationné par le Bloc québécois à la Chambre des communes, n'est-ce pas? Rarissime, car la chose s'est toutefois produite un 17 mars 2003, quand l'ancien premier ministre a officialisé le refus du Canada de suivre les États-Unis dans leur guerre contre l'Irak. Une décision historique et difficile que M. Jean Chrétien n'a jamais regretté, dit-il. Ni même craint de regretter sur la corde raide qui revient sur les raisons donc de ce refus canadien d'intervenir en Irak en 2003 aux côtés des États-Unis. Et donc, il faut aussi parler de ces manifestations. Il y avait des milliers et des milliers de manifestants, surtout au Québec, à Montréal, vous vous souvenez? Et tout ça a dû faire pression sur M. Jean Chrétien pour ne pas participer à la guerre.
N'est-ce oui, pas? C'est une manifestation, surtout à Montréal, c'est une manifestation historique en ce qui concerne le nombre de gens qui ont manifesté. Mais c'était quand même à Toronto aussi, à Vancouver, un peu partout au Canada. mais dont l'opinion était assez partagée. Il y avait quand même une forte au niveau, disons, je dirais des conservateurs ou des gens d'affaires qui cherchaient à ne pas déplaire ou à risquer la colère des États-Unis et puis peut-être de risquer d'avoir des interventions sur la frontière canadienne en ce qui concerne qui pourrait nuire au commerce. Donc ça, c'était très important pour certaines personnes. Mais finalement, il n'y a jamais eu de conséquences.
Et il y a aussi Jean Chrétien qui se souvient très bien de la pression qu'il ressentait des deux camps sur la question irakienne. Le peuple a semblé divisé, tandis que de nombreux éditorialistes, des commentateurs, des médias l'encourageaient à dire oui. Même Stephen Harper, alors leader de l'opposition officielle à la tête de l'Alliance canadienne, avait co-signé avec Stockwell Day, vous vous souvenez? Alors, en matière de politique étrangère, une lettre ouverte publiée par le Wall Street Journal, dans laquelle il affirmait son désaccord profond avec le Premier ministre canadien et son appui à l'invasion de l'Irak. Donc, racontez-nous un peu, sans nous dévoiler tout le secret du film, mais dans les coulisses, comment ça se passait? Il y avait le bras de fer politique quand même.
Mais c'est surtout, premièrement, c'était pour que nos diplomates comprennent un peu la question, mais la question s'est avérée assez rapidement que c'était clair que les Américains, coûte que coûte, partaient en guerre contre l'Irak, qu'il y ait une bonne raison ou non. La raison qui a été fournie, l'excuse, le prétexte, si vous voulez, c'était les armes de destruction massive. Alors que tout le monde, finalement, assez tôt, savait que ce n'était qu'un prétexte. Là, il s'agissait d'essayer de retarder ou de repousser le début de la guerre. Et puis, c'est surtout aux Nations Unies que ça s'est passé avec notre ambassadeur aux Nations Unies à l'époque, M. Paul Heinbacker, qui a travaillé très, très fort dans les coulisses pour essayer de permettre aux inspecteurs menés par M. Hans Blix, le Suédois, sur le terrain en Irak, de prouver qu'il soit qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas d'armes de destruction massive. Et c'était clair qu'il n'y en avait pas, mais je veux dire, on essayait de donner la chance aux inspecteurs de nous donner de déterminer d'une façon ou d'une autre, et à ce moment-là, on pourrait prendre une décision éclairée. Alors, ça n'a jamais eu lieu. Les Américains et les Britanniques ont essayé d'obtenir une résolution solide qui leur permettrait, si ça avait été voté, le Conseil de sécurité avait voté pour, leur donné l'autorité solide d'aller en guerre. Alors, ça n'a jamais eu lieu, ils n'ont jamais obtenu cette autorité-là. Et malgré les efforts de notre ambassadeur, la guerre a eu lieu quand même parce que les Américains et les Britanniques étaient déterminés d'y aller peu importe. Et puis finalement, les armes de destruction massive n'étaient pas même plus l'enjeu.
Oui. Et je ne sais pas, peut-être là, je vais me faire attirer des foudres. Heureusement, je suis dans la radio. Ça prend quand même un francophone qui est têtu et qui va contre un allié ferme et solide depuis des siècles, n'est-ce pas? Et lui, il a été réélu quand même. Il a eu 3 mandats. Hein. Il a servi 3 mandats, M. Chrétien.
Oui. Oui.
C'est un homme quand même assez puissant, fort et têtu et ferme sur sa décision, n'est-ce pas? On a même essayé, on a tenté d'influencer sa femme à un moment donné.
Oui, ben les hommes d'affaires disaient à la femme de M. Chrétien que Jean Chrétien devrait dire oui, qu'il ne pouvait pas dire non, etc. Mais aussi, il faut dire que c'est pas nécessairement dans le film, mais c'est quelque chose que j'ai appris en faisant la recherche. Il était très respecté, M. Chrétien, au G8. Il était parmi ses homologues, M. Poutine, Chirac, Schroeder, etc. Donc, il était très, très, très respecté à ce moment-là.
Sur la corde raide, Madame, Monsieur, au Festival de Ciné Franco, le 30 novembre à 16h30, au Hot Dogs Theater, cinéma. Et je vous rappelle que vous serez là, M. Guillemin et M. Oui. Denis McCready seront... On écoute un extrait d'ailleurs, rapide extrait de ce film, et après on parle un peu des personnages, des personnes qu'on retrouve dans ce documentaire.
On croit sincèrement système onusien qui permet de rétablir un peu l'équilibre entre les pays forts et les pays moins forts et qui permet de trouver des solutions démocratiques.
Il y a des clubs internationaux où le Canada joue au-dessus de sa force, en particulier à cause de sa géographie. Puis du fait qu'au fil des années, il a souvent utilisé sa proximité avec la Maison-Blanche pour essayer d'influencer ou de changer le cours d'une politique américaine importante.
Et oui, sur la corde raide, c'est bien. Qui a trouvé ce titre, hein?
Quoi, ça doit être moi, mais des fois, c'est une effort d'équipe. Ouais. Originalement, c'était étrange politique, mais je me rappelle pas à quel moment on a changé. Mmh.
Produit par l'Office national du film, parlez-nous un petit peu justement des personnages là, qu'on retrouve dans ce documentaire.
Ben, central à l'histoire, mais pas nécessairement central dans le film. Il y a évidemment M. Jean Chrétien, qui était la personne qui a pris la décision ultime le 17 mars 2003. Donc il est là, on l'a interviewé deux fois et puis il y a deux de ses adjoints, Claude Laverdure qui était au conseil privé et puis Edward Goldenberg qui était son chef de cabinet à l'époque. Donc ce sont les trois personnes qui ont rédigé l'annonce de M. Chrétien à la Chambre. Et donc, ils se sont assis la dernière journée ou la journée où les Américains et les Britanniques nous ont forcés de prendre une décision. C'est eux qui ont rédigé le texte. Donc, c'était les conseillers de M. Chrétien. À ça, Chantal Hébert, qui est journaliste.
Elle est formidable, cette femme.
Oui. Elle met vraiment en contexte beaucoup
Ce que je trouve très bien, c'est qu'elle est aussi sur les plateaux de radio de télé anglophones comme francophones. Oui. Et ça, c'est très important d'avoir cette perspective dans cette dualité linguistique. Maintenant, un monde multiculturel, c'est très, très, très important que les francophones soient aussi invités et partagent leur opinion. Parce que faut dire que le Québec a toujours pris une position très dur face à cette guerre en Irak, comparable au reste du Canada.
Oui, mais je pense pas que Mme Hébert représente nécessairement le Québec comme tel en tant que francophone. Je crois que c'est ce qui était intéressant chez elle, c'est qu'elle elle a une objectivité par rapport, peu importe le sujet, donc que ça rapporte avec le Canada anglais ou le Canada français, elle peut s'exprimer de façon égale. Donc c'est pas, il n'y a pas de partisanerie chez elle.
Oui. Et puis il y a Miloud Chenoufi, professeur au Collège des Forces canadiennes à Toronto.
Oui. Donc Monsieur Chenoufi, c'est un Algérien qui était journaliste dans les années 90. Une époque qui était très, très dangereuse pour les journalistes en Algérie, qui est arrivé au Canada en 98. Maintenant, il enseigne ce qui est le Moyen-Orient aux officiers des forces canadiennes, mais aussi aux officiers des forces de plusieurs pays, même les Américains, les Britanniques. Donc, c'est un expert dans la matière. Et c'était la personne qui m'a vraiment aider moi à me renseigner, à bien comprendre le sujet, parce qu'on ne s'assoit pas avec des gens comme Jean Chrétien ou Chantal Hébert sans être préparé.
Et puis enfin, Karine Prémont.
Oui, Karine Prémont qui enseigne les études américaines à l'Université de Sherbrooke, qui elle aussi nous aide à mettre contexte un peu sur ce qu'était l'époque et l'interventionnisme américain durant et après la guerre froide.
Alors, et c'est réalisé grâce à l'Office national du film. Est-ce que ça a été difficile de présenter ce sujet à l'Office?
C'était pas difficile. On a commencé à... Les premiers pas ont été faits pas longtemps après l'élection de M. Trudeau en 2015, puis suite aux attentats au Bataclan en novembre 2015. Et puis, on comprenait qu'il se passait quelque chose d'assez important. Politiquement un peu partout dans le monde, donc ça valait la peine d'étudier la question. Et puis par la suite, M. McCready qui a pris la place de Dominique Desjardins, qui était le producteur qui a accepté de produire le film. Après ça, M. McCready a pris la relève et puis c'est une personne qui est également passionnée de politique, de politique étrangère, etc. Donc, c'est M. McCready qui a complété le travail.
Et vous savez que M. Jean Chrétien continue encore à faire la manchette, hein, même pas plus tard qu'hier, aujourd'hui, on le voit encore, qui critique Donald Trump.
Ouais, ben. on est bien content de l'entendre et c'est bien qu'on ait le courage de.
Oui, je vous invite, madame, monsieur, à aller voir ce film absolument. Vous pouvez gagner une paire de billets sur la corde raide le 30 novembre à 16h30, un documentaire. Et le réalisateur, un des réalisateurs, Claude Guillemin, qui est avec moi. Vous pouvez gagner des billets, si cela vous intéresse, pourpourri@cut.fm. Ce film met en lumière le bras de fer politique qui s'est alors joué en coulisses avec notre voisin du Sud, qui a toujours fait preuve d'interventionnisme sur la scène internationale et servir ses intérêts économiques et géostratégiques. Je ne sais pas si Donald Trump était président à l'époque, en 2003, si on était pour une guerre en Irak. Ça, c'est la grande question, parce que lui, il veut retirer les troupes du Moyen-Orient, de partout à travers le monde, n'est-ce pas?
Oui, mais aussi, il faut être sérieux, puis c'est un peu le but du film, parce que on sait comment stable M. Trump peut être, et sur un coup de tête, il pourrait décider tout à coup, et surtout à une époque où sa popularité serait en chute, de déclarer une guerre, par exemple, contre l'Iran. Là, il faudrait réexaminer la question. Est-ce qu'on serait prêt, sachant que aussi ce serait aussi une guerre bidon que celle en Irak, est-ce qu'on serait prêt à l'appuyer compte tenu ou connaissant le genre de revanche ou de vengeance qu'il pourrait exercer sur nous? Déjà que M. Trump a fait au niveau économique au Canada ce que nous autres on avait peur que l'administration Bush ferait si on n'allait pas en guerre. Imaginez, et Trump l'a fait pour rien, on n'avait rien fait. Imaginez si on refusait de l'appuyer en quelque chose. Mais il pourrait décider de se venger de façon assez importante. Donc la question n'est pas nécessairement, ou la réponse n'est pas nécessairement claire.
Oui. Une auditrice à Montréal nous écrit: la pression populaire à Montréal du jamais vu. Plus de 150 à 200 000 personnes prennent les rues du centre-ville pour dire non à la guerre. On vous écoute en direct. Bravo, félicitations pour votre émission.
Bon.
Vous voyez, donc, venez
voir. Le film a été présenté cette semaine à Montréal, à la Maison de la Citoyenne, la Maison de la Culture de Verdun. Ouais. Très, très, très bien fonctionné. Les gens ont beaucoup apprécié.
Oui. Alors, on parle aussi, bien sûr, de M. Jacques Chirac, qui nous a quittés pas très longtemps, parce que la France a joué aussi sa tête dure lors de cette guerre en Irak, n'est-ce pas? Et les Français en parlent, et ils ne regrettent pas non plus de n'avoir pas participé à cette guerre. Par contre, la Grande-Bretagne y était main dans la main avec les États-Unis.
Oui, oui. Et puis, c'est encore assez de comprendre pourquoi.
Oui.
Il y avait un profit à y faire en quelque part.
Oui. Merci infiniment, cher ami. Claude Guillemin, madame, monsieur, sur la corde raide. Vous serez là, sur place, le 30 novembre à 16h30. J'espère que cela vous a plu. Vous nous appelez quand vous le voulez. Les gens aiment bien qu'on parle de notre histoire du Canada. Est-ce que vous avez d'autres projets en vue?
J'écris des trucs en ce moment. Là, je suis en train de travailler sur peut-être un roman. Ça, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec le cinéma.
Ah oui? Quand même, c'est intéressant. On pourrait en parler à la radio.
Et aussi, je peux mentionner que le Salon du Livre de Toronto, en début décembre, la nouvelle édition de ma pièce AmericanDream.ca en vente. Et je serai là pour faire des dédicaces.
D'ailleurs, on en a déjà parlé il y a un an, deux ans de cela, vous vous souvenez? Écoutez, envoyez-nous un petit message, cela nous fera plaisir d'en parler à nouveau avec vous, d'accord? Je vous remercie de la part de toute l'équipe et on se voit le 30 novembre à 16h30 sur la corde raide avec Claude Guillemin. Au revoir et à la prochaine.
Bye bye.
Quand le gain tombe dans les mains de quelqu'un que le bidon plein, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on sait tout, ça va brasser le bateau. Ou des bagos, c'est sûr, et achète tout le temps le plus gros. Quand le temps égale l'argent en pourvoyant tous ses clients. Quel monde de fous! En marchant dans la rue qu'on voit cette réalité crue, où il y a des gens fortunés qui sont même pas prêts à prêter pilote. ça dans notre société.
Oui, madame, monsieur, voilà, vous êtes nombreux à nous appeler pour aller voir les films de Ciné Franco. Vous avez jusqu'au 30 novembre à ne pas rater. Aujourd'hui, nous sommes choyés d'avoir des réalisateurs, réalisatrices qui sont avec nous tout au long de cette émission. Si vous voulez gagner des billets, choisissez votre film, allez sur le site de cinéfranco.com. Vous nous envoyez un petit message à propos@cut.fm et je vous lance l'appel, mais aussi je vous envoie votre VIP, certificat VIP, votre billet cadeau, madame, monsieur, pour cette semaine. Et je vous rappelle que justement, il y a des étudiants de l'Université de Toronto, campus de Mississauga, qui sont les heureux gagnants, les heureuses gagnantes, parce que ce sont que des jeunes filles, jeunes demoiselles, et oui, qui ont participé à un jeu concours que nous avons lancé comme ça sur la francophonie avec le département de français du campus de Mississauga. Bravo à Maïlis Barr, Prescha Mita et Sarah Pagliaro. Je répète, les trois gagnantes sont Maïlis Barr, Prescha Mita et Sarah Pagliaro. Et oui, donc il y a aussi monsieur Jean Jubenot qui a gagné un billet pour aller voir les crevettes pailletées le 17 novembre. Eh oui, vous avez appelé et vous avez gagné. Merci, bravo. Encore une fois, ceux et celles qui ont fait des dons, vous voulez aller voir un film, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm ou si vous préférez gagner un t-shirt ou encore d'autres cadeaux, aller manger au bistrot Le Sauvignon. Eh oui, vous nous envoyez un message immédiatement popourri@cut.fm. Félicitations aux participants, participantes à notre campagne de financement. Vous avez été plus de 200 personnes à vous inscrire pendant 2 heures. Et nous tenions à vous remercier chaleureusement pour votre participation. Tirage sort du Grand Prix en décembre et d'autres lots, d'autres cadeaux, des CD de nos artistes invités franco-ontariens français. Eh oui, il y a plein de cadeaux que nous avons reçus. Alors continuez à nous donner. Nous sommes près de 81 000 dollars actuellement, madame, monsieur. Et l'objectif de la radio, c'est 100 000 dollars. Et aussi cette belle histoire et belle victoire. Le tribunal ontarien annule une mesure permettant aux étudiants de se soustraire aux frais de services non essentiels. Donc tu n'es pas fini pour Pot Pourri Chaud, CUT 89,5 FM. Dans un instant, le journal de Radio France Internationale et on revient avec les invités de Ciné Franco. Ne partez pas, restez des nôtres. Pot Pourri Chaud sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Solo est un V, ohé, ohé, ohé.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
This is Ken Stauer, station manager for CIUT-FM 89.5. I would like to thank all of our kind and generous listeners for making the Sound of Your City on-air membership drive campaign a successful one. Your financial donations help ensure that this island of audio independence stays afloat. If you have not donated as of yet, there is still time by going to www.ciut.fm. All donors are eligible for the grand prize draw of return airfare and hotel to Iceland, courtesy of Icelandair. CIUT-FM, continuing to deliver the sound of your city each and every day.
Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Une actualité électorale aujourd'hui, Clémentine, on vote dans plusieurs pays du monde.
Oui, à commencer par Hong Kong, plus de 4 millions de personnes sont appelées aux urnes. Elles doivent élire 452 conseillers dans 18 districts. C'est la première fois qu'un scrutin de ce type est organisé depuis le début des manifestations pro-démocratie dans ce territoire semi-autonome chinois, un mouvement qui dure depuis maintenant 24 semaines. Journée de vote également en Roumanie, deuxième tour de la présidentielle. Le scrutin doit départager le président président sortant, Klaus Ioannis, et l'ancienne première ministre social-démocrate Viorica Dancila. Au premier tour, ils avaient respectivement remporté 38 et 22% des voix. Le chef de l'État sortant est présenté comme le grand favori de ce scrutin. La chef du PSD, elle, se retrouve depuis plusieurs mois dans une position délicate. C'est ce que nous explique Sylvia Marton, maître de conférence à la faculté de sciences politiques de l'Université de Bucarest.
Elle est très faible comme candidate puisque son parti à sa base, elle-même, elle la conteste. Bien sûr, elle cherche l'électorat traditionnel du Parti social-démocrate, un parti social-démocrate qui, lors des élections pour le Parlement européen, a obtenu un score historiquement bas, alors qu'en 2016, le Parti social-démocrate, pour les élections parlementaires et locales, a obtenu des scores historiquement hauts, plus de 40%. Et maintenant, elle fait une campagne électorale, elle, auprès de l'électorat traditionnel du Parti social-démocrate. Donc elle ne sort pas, à mon avis, elle a du mal à sortir de l'électorat du Parti social-démocrate parce que déjà le Parti social-démocrate a du mal à convaincre son propre électorat pour voter la candidate. Elle est une première ministre qui a perdu le gouvernement suite à une motion de censure le 10 octobre dernier, contestée par des voix puissantes du Parti social-démocrate. C'est un Parti social-démocrate très assez fragmenté. Le groupement autour de la première ministre, il y a d'autres groupes rivaux au sein du parti qui la contestent.
Des propos recueillis par Anastasia Becchio. Et enfin, élection présidentielle en Guinée-Bissau. 760 000 électeurs sont appelés à voter. 12 candidats sont en lice, parmi lesquels le chef de l'État sortant, José Mario Vache. Le scrutin doit permettre de tourner la page des crises politiques qui secouent le pays depuis son indépendance. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 17h, heure locale.
En Bolivie, le Parlement donne son feu vert pour l'organisation de nouvelles élections présidentielles et législatives.
Les parlementaires ont effectivement adopté hier un projet de loi allant dans ce sens. Ce double scrutin se tiendra sans Evo Morales, l'ancien président exilé au Mexique depuis sa démission le 10 novembre. Objectif de ces nouvelles élections, apaiser la situation dans le pays après la présidentielle controversée du 20 octobre dernier. Dans le nord de la Syrie, sous contrôle turc, 9 personnes ont été tuées hier matin dans l'explosion d'une voiture piégée à Tal Abyad. 22 autres ont été blessées.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidait de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux. Avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Ciné Franco vous donne rendez-vous. Les crevettes pailletées, The Shiny Shrimps. Bonne annonce.
Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water polo.
On semble à une bande de BD.
Je sais pas, non.
Et merci.
Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie.
Oh, allez, vas-y, lâche-moi le cul, pédé-toi, arrête la caméra, c'est bien.
Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle.
3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes.
Il aura la responsabilité d'entraîner pendant 3 mois.
Vous allez faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer.
Faites-toi la rétropédale.
Avant de les conduire en Croatie aux Gay Games.
C'est quoi les Gay Games?
C'est comme les JO.
En moins chiant, avec que des beaux mecs.
Allez, entraînement surprise.
Olé.
22e édition de Ciné Franco, vive la famille! Du 22 au 30 novembre, toute l'équipe de Ciné Franco vous donne rendez-vous à son prestigieux festival au cinéma Hot Dogs Ted Rogers. Le festival de cette année englobe la richesse à la diversité du cinéma francophone. 22 longs métrages, 11 courts métrages qui saisissent le meilleur des comédiens, mais aussi du drame social. 22e édition du Ciné Franco, du 22 au 30 novembre, le plus grand festival de films francophones hors Québec, au cinéma Hot Dogs Ted Rogers. Après une année de transition et malgré les défis financiers, Ciné Franco ne déroge pas de sa mission. Faire résonner la vitalité des cultures francophones avec des thématiques qui englobent les réalités de son public. 22e édition de Ciné Franco du 22 au 30 novembre pour les cinéphiles les plus curieux et engagés au cinéma Hot Dogs Ted Rogers. Eh oui, coup de projecteur cette année sur différentes familles traversant des épreuves. Certaines sont sociétales comme dans le film Les Invisibles, d'autres historiques comme Notre-Dame du Nil. Certains réalisateurs ont même adopté un angle religieux, comme c'est le cas pour le film Le Jeune Ahmed. Du 22 au 30 novembre, au cinéma Hot Dogs, Ted Rogers, 31 films, dont 22 longs métrages en provenance du Canada, de la Belgique, de la France, du Maroc et du Rwanda. Pour sa 22e édition et pour notre plus grand bonheur, Ciné Franco accueille des cinéastes et vous propose une programmation qui comprend 4 premières mondiales, 5 premières nord-américaines, 1 première canadienne, 10 premières du Canada anglais, 2 premières ontariennes et 4 premières torontoises. Alors qu'attendez-vous? Procurez-vous vite d'un passeport du festival pour seulement 150$, je dis bien 150$. Participez à nos jeux concours et nos émissions hebdomadaires et qui sait, la chance pourrait vous sourire. Des billets VIP gracieuseté de notre commanditaire et partenaire de choix Ciné Franco. Découvrez la programmation complète sur le site de Ciné Franco et soutenez sa fondatrice Marceline. Et n'oubliez surtout pas de voter pour votre film préféré. www.cinéfranco.com. Monsieur, que signifie Ciné Franco pour vous?
Ciné Franco, pour moi, c'est comme des vins qui se conjuguent avec toutes les saveurs. Un assemblage de vins provenant de plusieurs millésimes. Ciné Franco remplit sa mission avec brio, c'est-à-dire étancher la soif, point. Je vous invite d'y aller en grand nombre. Et puis, permettez-moi, cher monsieur, de vous corriger. Ce ne sont pas ceux qui ont de la chance qui sourient. Ce sont ceux qui sourient qui ont de la chance.
Ben, les débuts sont assez cocasses. Hein. Nous étions membres d'un ciné-club à Casablanca qui s'appelle Ciné-club Al-Zaim avec un groupe d'amis qui sont d'ailleurs tous maintenant dans le domaine ou qui sont des grands penseurs, des grands sociologues aujourd'hui dans le pays, des noms très connus et reconnus. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, on a dit nous ne voulons plus parler du cinéma parce que dans le ciné-club, on regardait les films évidemment, mais on dissertait beaucoup sur les films. On est arrivé à un moment où c'était une crise. Nous ne voulions plus en parler seulement, nous voulions fabriquer nos propres images. Et la première expérience, c'était une expérience très cocasse, mais très intéressante. Avec 5 copains, on a pris une caméra, on s'est mis dans une voiture et on est parti dans la montagne, dans un village qui s'appelle Bouadel, pas loin de Taounat.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez en ce moment un commentaire de notre réalisateur invité qui sera des nôtres dans quelques minutes. Réalisateur et scénariste marocain né à Fès au Maroc, il a réalisé de nombreux films et documentaires traitant de la société et de l'histoire marocaine, notamment de la période coloniale et des années de plomb, mais aussi de la condition féminine au Maroc. Militant intellectuel, il a rédigé de nombreux articles et participé à des conférences dans le monde sur le cinéma. Il est le frère du réalisateur Omar Shraibi. Et mesdames, messieurs, accueillons avec plaisir le réalisateur de la trilogie Femmes et Femmes, Jawara, fille de prison et femme en miroir, le réalisateur de ce dernier long métrage intitulé Les 3M, histoire inachevée, qui est à Ciné Franco le dimanche 24 novembre, aujourd'hui à 13h30. Dan chiki dan 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 ke dum bang ke dum bang ke de be de be. Et oui, c'est le tapis rouge pour monsieur le réalisateur en direct du Maroc, mais qui est avec nous à Toronto exceptionnellement. Saad Chraibi, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous Eric, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Merci d'avoir pris quelques minutes, je sais que vous êtes très occupé, pour nous parler de votre film passionnant, hein, qui reflète des réalités de notre auditoire ici à Toronto, où plus de 70% des habitants sont déracinés de leur terre natale et vivent souvent des déchirements, des déceptions, des regrets et parfois le désespoir. Pourquoi les 3M? Et est-ce que ce film est une fiction ou une histoire vraie?
C'est les deux à la fois, parce que le film est composé d'une partie effectivement de fiction et une partie de documentaire. Et pourquoi ce film? C'est simplement pour poser deux ou trois questions. L'une d'entre elles qui paraît toute simple mais qui est assez compliquée, c'est pourquoi le monde est en train de devenir fou et pourquoi la folie du monde est en train de s'accélérer de plus en plus. Ça, c'est la première question que le film est en train de poser. Et le deuxième volet, ce film travaille, si vous voulez, sur la notion du vivre ensemble, de la cohabitation entre les uns et les autres, puisqu'il retrace l'histoire de trois personnages principaux, qui sont un personnage femme musulmane, et deux personnages juifs et chrétiens, et que le film suit pendant une soixantaine d'années, pour voir quelle a été l'évolution de ce rapport de cohabitation qui existait entre les gens des trois religions monothéistes, et pourquoi les événements qui se sont passés dans le monde, mais particulièrement dans la région arabo-musulmane, ont influencé pour que cette cohabitation, malheureusement, se transforme aujourd'hui en prise de position communautariste et on replie sur soi-même et on refuse de l'autre. Voilà un peu le thème principal du film et voilà la question que le film souhaite ou ambitionne de poser.
Nous sommes extrêmement choyés et heureux de voir que Marcel Lynn, notre ami de longue date, qui est assez sensible sur ces questions de vivre ensemble, sur les conflits qui peuvent se révéler dans certaines familles, n'est-ce pas, pour des raisons d'ordre religieux, politique ou autre. Et quand on parle de Moyen-Orient, on parle du Maroc, on parle de cette relation entre musulmans, juifs, il me semble qu'ici au Canada, on est un peu éloigné de ces réalités. Or, c'est très bien que ce film soit présenté ici afin qu'on arrive à cerner un peu le problème. Quel est le message principal que l'auditeur de Toronto, francophone, francophile, qui va aller voir ce film, quel est le message principal qu'il va faire ressortir, qui va peut-être lui toucher?
Permettez-moi de revenir juste un petit peu en arrière pour dire que même au Canada de manière générale, et même à Toronto, moi je me rappelle, depuis une vingtaine d'années que je fréquente cette ville et ce festival, que la relation de cohabitation entre les musulmans et les juifs était parfaite, était très bien. J'ai l'impression qu'elle n'est pas ébréchée aujourd'hui, en tout cas ici. Peut-être que des minorités fanatiques de part et d'autre ne la suivent pas, c'est une probabilité. Je crois que dans la majorité des cas, du moins c'est ce que me raconte Marcel Lynn, notre ami, que la relation entre les uns et les autres est toujours une relation de peut-être pas d'entente, mais au moins de compréhension l'un de l'autre. Et s'il y a un message à transmettre à cette population de Toronto, enfin la population pas seulement marocaine, enfin pas seulement musulmane ou juive, mais pour toutes les populations qui cherchent à cohabiter avec l'autre, c'est de dire que le monde d'aujourd'hui, comme nous le savons tous, est un monde ouvert. Il ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus revenir à des positions de sectarisme, à des positions de nationalisme, etc. Nous sommes obligés de composer avec l'autre. Donc, à partir de cette obligation, il est préférable quand même de le faire dans la quiétude, dans la sérénité, dans le partage, même si chacun a des racines, et vous avez eu raison de rappeler au début de cette conversation que parfois les populations qui sont exilées se sentent un peu déracinées. Vous savez, les racines, c'est quelque chose qui existe dans notre subconscient, dans notre inconscient, dans notre envie, dans notre fantasme, mais la réalité vécue au quotidien doit prendre le dessus et doit prendre le pas. parce que c'est ce qu'on vit au jour le jour. Autant nous rêvons, autant nous avons un rapport très, très sentimental avec notre passé, avec nos racines, autant la réalité d'aujourd'hui nous impose une vision différente. Oui. Or, si moi, musulman, je n'accepte pas de vivre à côté du juif ou du chrétien ou d'autres nationalités ou d'autres convictions, comment pourrais-je être équilibré vis-à-vis de moi-même ? Moi, je pense que c'est surtout ça le message. Faisons en sorte tous pour qu'on puisse nous entendre, qu'on puisse cohabiter, qu'on puisse composer ensemble.
Il y a tellement à parler autour de ce film. Je pourrais qu'on fasse un débat radiophonique avec vous. Malheureusement, on est éloigné aujourd'hui. Les 3M, histoire inachevée. Aujourd'hui, ce dimanche, à Ciné Franco, Madame, Monsieur, dans le cadre de son 22e édition, à 13h30, et je suis en présence du réalisateur marocain Saad Achrabi. Avant de parler des personnages, mais aussi de voir l'état d'esprit, et peut-être aussi de voir la trame de ce film, on écoute un extrait, Madame, Monsieur, voici un extrait de ce film, Les Trois Histoire, les 3M, histoire inachevée.
Les histoires de l'arwa, on a un film bien, ou de la hafla kbira.
Un autre pacte pour la vie.
Tous les 10 ans, vous m'enlèvez.
Ton dernier rapport, excellent travail.
J'ai jamais fait de rapport, hein. J'ai jamais travaillé pour mon oncle.
Le blé de ma mère, j'ai juste qu'à me faire.
Si tu continues, je te fais bouffer ta guitare.
Malik, خرجت العقل ولا شنو.
Non. T'es vraiment un menteur, un tricheur, un hypocrite.
Je te déteste.
Je suis avec elle.
Oui, attends.
C'est droit de femme, s'il vous plaît.
Où est-ce que tu iras te caisser, ou là, sinon ?
Par deux fois, tu m'as obligé à me racler les entrailles.
J'ai 40 ans, papa.
Alors, c'est tellement beau à voir, madame, monsieur. Il faut absolument aller voir ce film si vous avez encore un peu de temps. Alors, il y a des événements politiques qui se sont déroulés au Maroc, en Tunisie. On voit cette jeunesse en colère des fois qui veut renverser le pouvoir. On le voit aujourd'hui à Hong Kong et dans d'autres pays du monde. Comment vivent les jeunes aujourd'hui ? Quel est leur état d'esprit au Maroc, au niveau de la liberté sexuelle, la liberté d'expression ? Peut-on marier qui on veut, épouser qui on veut ? Ou encore, il y a toujours des lois ou des tendances ? Ce sont les adultes, les aînés qui doivent choisir la femme ou le fiancé pour l'autre. Comment se passe un peu ? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui, au Maroc d'aujourd'hui ?
Ouais, vous savez, les mutations, parfois dans des sociétés traditionnelles, sont un peu lentes à se faire. Et effectivement, le Maroc n'échappe pas à cette règle. Il a observé des mutations, mais il reste quand même certaines résistances de ce que j'appelle, moi, les sclérosés d'esprit, qui n'acceptent pas de suivre la roue de l'histoire, et qui n'acceptent pas de changer les choses en profondeur. Les jeunes, aujourd'hui, aussi entre leur envie de s'exprimer, comme vous dites, d'avoir des relations libres avec des partenaires et puis de s'épanouir, et entre les règles, entre guillemets, les valeurs, entre guillemets, que la société traditionnelle, malheureusement, continue à imposer pour qu'un certain équilibre soit maintenu, qu'il n'y ait pas de vagues très violentes qui se passent. Je sais que le Maroc est l'un des rares, enfin, nous savons tous que le Maroc est l'un des rares pays à avoir échappé à toute la vague du printemps arabe dans les années 2011-2012. Bon, ça lui donne une certaine stabilité au niveau du système, disons, politique général. Il couvre quand même dans la société des élans de jeunesse très très forts qui arrivent un peu à s'exprimer à travers l'art, à travers la musique, à travers le chant. Mais bon, ça reste des élans.
Parce que dans votre film, là, le cher Moïse quitte le Maroc pour Israël, Mathieu pour la France, Malika vit cette séparation dans la douleur, l'incompréhension. Est-ce que aujourd'hui, en 2019, il y a encore des jeunes pour vivre leurs rêves, leur liberté, pensent, rêvent à quitter leur pays d'origine pour aller s'établir ailleurs ? Est-ce que ça se passe encore dans le quotidien des jeunes marocains ?
Malheureusement, oui, parce que lorsqu'ils ne trouvent pas réponse à leurs aspirations, effectivement, ils savent qu'au-delà des frontières et au-delà des mers, il y a un autre monde qui, dans le temps, était considéré comme un Eldorado, mais aujourd'hui, de plus en plus, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait vert et tout à fait agréable comme ils le pensaient. Mais n'empêche qu'il y a encore des vagues d'émigration, il y a encore des vagues d'exil, peut-être moins importantes en quantité qu'avant, mais elles existent toujours. Différents types d'exil, soit des étudiants qui partent pour terminer leurs études à l'étranger et qui ne reviennent plus. D'ailleurs, à ce titre, vous savez très bien qu'au Canada, il y a une population marocaine assez importante qui se compte par dizaines de milliers de personnes. Et puis en Europe aussi, principalement en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, si, il y a encore des vagues d'émigration de la part des jeunes qui ne trouvent pas réponse à leurs souhaits, à leurs attentes, à leurs aspirations dans le pays.
D'ailleurs, nous avons des étudiants, des auditeurs de la région de Tanger qui nous écoutent en ce moment sur Internet, qui vous saluent. Alors, ce film s'est déroulé, vous avez filmé ce film à Casablanca, à Paris. Parlez-nous un petit peu de ces artistes, ces acteurs, ces actrices. Est-ce que c'était difficile de les retrouver?
Non, moi j'ai eu la chance de travailler avec trois acteurs professionnels qui sont très très bons, tous les trois, aussi bien qui ont campé les trois personnages principaux, Malika, Moïse et Mathieu. Et le gros travail sur lequel nous avons planché pendant 3 mois avant le tournage du film, c'est de les mettre dans le bain de trois personnages qui vont couvrir 60 années de leur existence, c'est-à-dire que on les voit enfants, bon ça c'est d'autres comédiens, mais on les voit à l'âge de 20 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 60 ans, et il fallait pour cela une période d'adaptation, une période d'intégration des personnages et d'intégration aussi des époques qu'ils vont vivre, et évidemment se documenter sur ces événements qui se sont passés dans toute cette région depuis les années 50 et jusqu'en 2011 et 2012, et je pense que au vu du résultat, je pense qu'ils ont bien intégré ces trois personnages.
Et il faut dire qu'aussi, vous avez cette sensibilité envers les femmes. Hein. Vous aimez, à travers vos films, peut-être porter l'histoire, les histoires ou les problématiques que touchent particulièrement les femmes.
Oui, vous savez, j'affectionne tous les sans-paroles, tous les sans-statuts, toutes les minorités, toutes les gens qui n'ont pas tribune pour s'exprimer. Et évidemment, chez nous, on sait très bien que la position de la femme fait partie de cette strate sociale. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours souhaité leur donner la parole, leur permettre de s'exprimer, de jeter un éclairage sur leurs difficultés, leurs problèmes. Et parfois, avec pas mal de succès, parce que la fameuse trilogie dont vous avez parlé tout à l'heure a eu un accueil très très favorable dans le pays, et certains même disent qu'elle a participé un peu à donner conscience, à faire prendre conscience de toute la dimension de la problématique que la femme marocaine vit au Maroc, pas seulement au Maroc d'ailleurs, dans la majorité des pays arabes.
Alors, je demande aux gens qui nous écoutent, madame, monsieur, soyez curieux, allez-y, c'est les 3M, histoire inachevée. Aujourd'hui, 24 novembre à 13h30, en présence du réalisateur marocain Saad Achrabi, qui est avec moi, et nous sommes très, très heureux et très fiers. Vous direz bien le bonjour à toute l'équipe de Ciné Franco, et particulièrement à Marcel Lynn.
Avec plaisir. Et
on se voit, j'espère, très bientôt, avant votre départ.
Avec plaisir. Alors, juste une précision. Le film se passe dans une salle qui s'appelle la salle qui se trouve sur Blue Street West.
Hot Dogs Cinéma. Voilà. D'ailleurs, les gens ont toutes les informations sur le site web de cinéfranco.com. Allez, bon succès, bon courage, et j'espère que les gens seront nombreux.
Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci pour cette couverture.
Au revoir.
Au revoir.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, j'apprends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
CIUT 89.5 Toronto.
La radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins. Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
Et oui, merci à tous et celles qui nous ont envoyé des messages concernant l'entretien avec notre dernier invité, c'est-à-dire le cinéaste du Maroc, réalisateur du Maroc, Monsieur Saad Chraibi. Je vous rappelle que le film est projeté aujourd'hui, les 3M, Histoire inachevée à 13h30, Premier Mondial, et au Hot Dogs Ted Rogers Cinema, 506 rue Bloor West. Allez-y, et si cela vous intéresse à 16h30, notre film, Sophia, premier à Canada, anglais, Pupil à 19h, première torontoise, et je vous donnerai la suite de la programmation dans un instant. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont appelés pour gagner des billets. Envoyez-nous vos messages immédiatement, popourri@cut.fm. Et tout de suite, nous allons au film de fermeture le 30 novembre prochain. Comme film à fermeture, Ciné Franco vous présente Antigone, guerre des mondes, puissante ode à la solidarité humaine, titré certaines critiques. Je vous conseille d'aller voir ce film, Antigone, de Sophie Deraspe. À une époque où le thème de l'immigration est sensible tant au Québec que dans les sociétés occidentales en général, à une époque où aussi les préoccupations de la jeunesse planétaire sont en rupture avec celles de ses aînés, cette nouvelle adaptation de la pièce de Sophocle ne pouvait mieux s'inscrire dans l'ère du temps, un film coup de poing, un film percutant qui fait à la fois écho aux difficultés que rencontrent les immigrants et à la révolte d'une jeunesse qui gronde. Ce film a d'ailleurs obtenu le prix du meilleur long métrage canadien au dernier Festival international du film de Toronto. C'est le film de fermeture Ciné Franco le samedi 30 novembre à 19h et je pense que je serai là. Alors qui est cette réalisatrice un peu hors commun? Elle est née en 1973 à Rivière-du-Loup au Québec. Elle est cinéaste, directrice de la photographie et productrice québécoise. Elle est considérée comme l'une des figures remarquées du nouveau cinéma québécois. Son œuvre, qui porte notamment sur les arts actuels, questionne sans cesse les limites, en particulier celles de la représentation, du réel et de la fiction. 2006, son premier long métrage indépendant, le déroutant recherché Victor Pellerin, qui obtient la mention du jury, compétition internationale du Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. En 2009, son deuxième long métrage, Les Signes Vitaux, est lancé en compétition officielle au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Il remporte le prix du Best New Canadian Film au Whistler Film Festival au Canada. Très remarqué dans son premier rôle au cinéma, Marie-Hélène Bellavance, son actrice principale, y est nommée Best Actress. L'année 2015 est fructueuse pour Sophie, qui termine deux longs métrages, Les Loups, une coproduction Canada-France, rassemble une brochette d'acteurs connus du Québec. Le profil Amina, connu aux États-Unis sous le titre A Gay Girl in Damascus, The Amina Profile, est un premier long métrage documentaire pour la réalisatrice. Il fait beaucoup de bruit lors de sa première au Sundance Film Festival en 2015, en compétition officielle, avant de poursuivre sa carrière dans de nombreux festivals à travers le monde. Sans plus tarder, madame, monsieur, accueillons la réalisatrice Sophie Deraspe.
On est parti au Canada, mais j'étais avec ma grand-mère, mes deux frères, puis ma soeur.
Puis cette année nous a mis paix et prospérité. Baba, maman, protégez-nous.
Et gardez-nous unis.
Et oui, bonjour et bienvenue à Cédé Franco et CUTFM. Sophie Deraspe, bonjour.
Bonjour.
Alors, cela me fait plaisir de vous avoir. Est-ce que vous serez à Toronto pour la fermeture du cinéma, du festival Ciné Franco?
Absolument, je serai là dans l'après-midi pour une classe de maître et en soirée pour la présentation donc du film de clôture, cette adaptation d'Antigone.
En lisant votre biographie, on dirait que vous êtes une personne qui est un peu détachée du monde pour mieux voir le monde, un peu hors commun. Il me semble que vous avez un regard assez particulier en tant que jeune réalisatrice sur notre monde d'aujourd'hui. Ai-je tort ou raison?
D'abord, je vous remercie de m'appeler jeune réalisatrice.
Vous l'êtes parce que vous êtes plus jeune que moi.
Voilà, tout est relatif. Effectivement, j'ai souvent pris un pas de côté afin de regarder le monde. J'aime lever des voiles sur certains univers. Dans mon premier film, c'était le monde de l'art, mais comment est-ce qu'on crée une personnalité aussi? Comment est-ce qu'on crée un culte et aussi donc un artiste en art contemporain? Ensuite, j'ai exploré même la fin de vie avec le film Missing Vito, puis donc pour mieux se questionner sur ce qu'est la vie et qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu. Effectivement, je semble aller d'un univers à l'autre, et c'est vrai, mais en même temps, au fil des films, je vois qu'il y a, une continuité dans ces films-là. Il y a toujours ce rapport à notre engagement dans le monde et toujours en lien avec une communauté.
C'est ça, le mot engagé manquait peut-être à ma présentation, parce que vous êtes vraiment une réalisatrice engagée quelque part dans le monde pour une cause.
Effectivement, je ne suis pas une militante dans la vie, bien que j'admire ceux qui consacrent leur énergie justement à défendre des causes justes. Moi, je le fais plutôt par l'art. Puis s'il y a vraiment, je crois en la liberté artistique et sous toutes ses formes. Mais en même temps, j'ai envie moi d'inscrire ce que je fais dans une proposition où, même si on va dans parfois des noirceurs ou des drames, j'ai envie d'en faire rejaillir une lumière, toujours. Donc, j'ai envie quand même qu'on ressorte d'un film accompagné de quelque chose qui nous fait voir le monde différemment, qui nous fait l'apprécier, qui nous touche, qui nous... puis je pense que c'est particulièrement généreux en ce sens avec Anticode.
Oui. Ai-je tort de dire que ce sont les arts visuels et la littérature qui vous ont conduit vers le cinéma?
C'est totalement ça, oui. Je suis une personne qui était très, très intéressée par énormément de choses dans la vie. Ça va de la musique aux arts visuels, à l'anthropologie, à la philosophie. Puis quand j'ai découvert le cinéma, j'ai vraiment senti que c'était là où tout pouvait être rassemblé. On peut y raconter une histoire, mais y mettre les éléments aussi. C'est là que j'ai senti que le plein épanouissement de ce que je pouvais apporter ou rechercher pour moi, pour le monde, c'était à travers le cinéma, cette œuvre d'art totale, pour reprendre une expression de Wagner qui disait de l'opéra total Kunstwerk. Je pense que c'est aussi vrai pour moi, en tout cas pour le cinéma à notre époque.
Antigone, un film coup de poing, très acclamé lors du dernier TIFF à Toronto. Vous voulez mettre en évidence la force des femmes militantes, batailleuses, Parlez-nous un peu de cette adaptation d'une tragédie grecque.
Oui. Bien, tout d'abord, le film en soi, il pourrait être vu, si je retirais les noms, d'abord celui d'Antigone et de sa famille qui sont tirés de la pièce de Sophocle. Si je retirais ces noms, le film se tiendrait tout seul. On n'a pas besoin de connaître la pièce pour l'apprécier. Mais pourquoi je décide quand même de rester, de conserver ce lien avec la pièce de Sophocle, c'est que il y a quand même... moi, lorsque j'ai lu cette pièce, j'étais dans ma toute jeune vingtaine, j'ai été foudroyée par la force de ce jeune personnage féminin. C'est un personnage vraiment comme aucun autre ne m'avait parlé dans la littérature et peut-être même dans l'art en général, même au cinéma. C'est une toute jeune femme qui se tient droit, qui maintient son système de valeurs, même si cela l'amène contre la loi. Et puis toute la pièce et tout le film aussi est une négociation là avec les lois écrites des hommes alors qu'elle maintient les lois de son cœur. Et avec intelligence ça faisait un bien immense aussi de constater que dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la littérature, du théâtre, existait ce personnage féminin aussi fort. La prise de parole des femmes, elle n'est pas nouvelle que de notre époque. Elle a déjà existé, elle a été quand même effacée souvent au cours de l'histoire où on lui a peu fait de place, mais elle est là et ça fait un bien immense de savoir ça, en tout cas pour la jeune femme que j'étais à l'époque. Puis assez personnage tellement fort qui m'a accompagnée pour que j'ai eu envie d'en faire une adaptation totalement inscrite dans le monde contemporain, comme je disais. Il est pas nécessaire de connaître la pièce. Je pense que si on la connaît, ça ajoute des couches intéressantes.
Oui.
Mais l'histoire se déroule à Montréal. Ça aurait pu se dérouler dans à peu près n'importe quelle ville occidentale ou une ville qui reçoit sa part des migrants. Histoire de cette jeune femme qui, suite au décès de son frère, c'est une bévue policière, il meurt sous les balles d'un policier. L'autre se fait arrêter et il est menacé de déportation. Puis elle se dit, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour sauver ma famille, pour sauver la dignité de ce qu'il me reste? Et puis, elle est prête à se mettre hors la loi pour aider le frère qui lui reste à s'évader de prison. Donc, c'est toute cette négociation-là avec l'État, avec la loi dans laquelle cette toute jeune femme entre.
Et aussi, il faut voir le traitement médiatique dans tout ça, l'impact social que cette affaire entraîne. On écoute un extrait de ce film, Madame, Monsieur, Antigone, qui est projeté comme film de fermeture le 31 novembre à 19h. Vous avez une paire de billets qui vous attend ici. Vous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm. Et la jeune réalisatrice, c'est Sophie Deraspe qui est avec nous. On écoute un extrait. In the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in her heart. Maintenant, il faut sauver Polynes.
Là, il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux.
Ça marchera jamais, Tato. J'ai peur pour toi. Fais ce qu'il faut. C'est tout.
T'as enfreint la loi pour ton frère.
Ouais, juste un.
De toute façon, moi, je t'aime.
Est-ce que vous êtes bien consciente des charges portées contre vous et des conséquences qu'elles auront sur la peine qui pourrait vous être donnée?
Oui, je suis solidaire de ma famille.
C'est un marque quelque chose de pas mal plus gros que tu penses, même si tu finis.
Je peux pas m'enfermer de même, voyons donc, il s'est fait tirer par la police.
J'ai jamais rien fait, t'es première de corps.
Je ferai la loi, mais je recommencerai demain. Mon cœur me dit d'aider mon frère.
Et oui, Antigone, un film percutant qui fait à la fois écho aux difficultés que rencontrent les immigrants et la révolte d'une jeunesse qui gronde. C'est l'histoire d'une femme qui défie la loi. Un film quand même, mise en scène avec beaucoup de sensibilité. Travailler justement avec ces cultures, comment vous avez pu vous adapter à ces réalités quand même qui est assez dure des fois pour les immigrants ou dans les milieux, les immigrants en France par exemple, on dirait des banlieues où il y a toujours une certaine peur de la population générale de se rapprocher de trop près, mais vous êtes plongé dans ce milieu-là pour nous faire ressortir une réalité qui existe dans certains milieux au Canada ou ailleurs.
Bien, en fait, je dois dire que j'ai mon inspiration pour écrire Antigone dans notre monde contemporain vient d'une tragédie qui est arrivée à Montréal en 2006. Un jeune homme, Freddy Villanueva, se fait tirer par un policier et son frère aîné, qui a des démêlés avec la justice dès lors où il a 18 ans, il se fait menacer de déportation. Puis moi, je me rappelle avoir vu en ligne, bon, évidemment, il y a eu une enquête, il y a eu des émeutes à Montréal-Nord. Suite à cette enquête-là, et tout ça, je voyais des YouTube, puis je lisais les commentaires, puis il y avait vraiment des commentaires parfois très violents, racistes. Je me disais, mais j'avais honte, en fait, j'avais honte que ce type de commentaires puisse sortir de compatriotes de mon pays. Et puis j'ai voulu prendre le côté de l'empathie pour la famille, même si les frères ne sont pas parfaits. Il demeure que ce sont des gens, cette famille vit une immense tragédie. Et aussi, quand on pense à des gens qui ont vécu l'immigration, et d'autant plus s'ils sont arrivés comme réfugiés, c'est très fort probablement parce qu'il y a une tragédie qui a précédé aussi leur arrivée ici. Donc, c'est ce côté, le cinéma, je trouve, est une forme sublime pour l'empathie parce que on vibre avec des personnages, on pleure, on sursaute, on a peur, on vit une aventure, on vit l'amour, on arrive à faire tout ça avec le cinéma, le cinéma de fiction. Et donc, moi, j'ai eu envie de prendre le pas de cette empathie puis de vivre à travers le cœur de la famille. J'ai pris mes distances complètement par rapport à l'histoire de Freddy Villanueva parce que c'est trop récent, parce que de toute façon, moi, j'allais raconter l'histoire d'Antigone, ce n'est pas tant l'histoire des frères. Mais donc, j'inscris cette Antigone-là et elle devient une figure de, oui, d'amour pour sa famille, de sauvegarde de la dignité, mais de résistance aussi. Et cette résistance-là, elle fait écho à toute une jeunesse qui conçoit que notre système, il n'est pas parfait, et pourtant, même si les individus sont souvent ont bon cœur, mais le système, lui, il est rigide et il est totalement inapte à l'empathie. Et puis c'est là, justement, que une jeunesse, mais plus largement aussi une frange de la population qui vient en support avec Antigone et ce qu'elle fait pour sa famille.
Moi, j'ai eu la chance de voir ce film. Pour vous dire la vérité, j'ai été très ému. Et je suis convaincu que d'autres spectateurs, d'autres ceux qui étaient avec moi ont été aussi émus. Et pour terminer rapidement, beaucoup de gens vous applaudissent, disent que vous avez fait des mises en scène avec beaucoup de sensibilité. Antigone vaut aussi pour les performances empreintes d'authenticité, d'acteurs qui font ici leurs premières armes devant une caméra. On ne peut pas passer sous silence la présence de Rachida Ousada dans le rôle de la grand-mère, superbe et force tranquille. Parlez-nous justement de cette grand-mère.
Mais en fait, j'ai trouvé les acteurs à travers un casting sauvage, c'est-à-dire que c'était un appel ouvert où j'invitais les gens à appliquer, surtout des jeunes, parce que je cherchais à former la famille d'Antigone, qui est constituée de 4 frères et sœurs âgés entre 16 et 21 ans. Et je les cherchais d'origine maghrébine, parce que il fallait à un moment donné au cinéma, ils ne sont pas simplement immigrants, il faut leur donner aussi leur langue, leur couleur. Et donc, je les cherchais parmi la communauté maghrébine qui vit à Montréal. À chaque fois, je demandais aux jeunes que je rencontrais, aux jeunes kabyles spécifiquement, est-ce que vous connaissez une dame qui pourrait jouer le rôle d'une grand-mère? Et puis, comme ça, c'est par l'entremise d'un jeune que j'ai rencontré qui figure dans le film aussi, et c'est lui qui me dit, ah, j'ai une tante. Je pense qu'elle serait bonne. Et puis, je l'ai rencontrée, puis effectivement, Rachida Ousada, qui est une dame d'origine kabyle, elle parle québécois avec un accent encore plus grand que le mien. elle partage les deux cultures maintenant, depuis un bon moment. Mais mais je suis tombée en amour avec cette femme. Elle a une générosité immense, partage de sa culture, de ses chansons kabyles, de sa nourriture. Mmh. Et dans le film, justement, bien, j'avais cette scène, j'en ai plus d'une scène où elle chante, c'est très important dans le film. Et elle, dès le premier instant où j'ai entendu chanter, même si je n'avais pas de compréhension des mots exacts, le cœur vibrait, j'étais complètement émue.
Le temps passe, malheureusement, on pourrait parler avec vous pendant des heures. Et c'est ça, là réside la force de ce film, Antigone, version d'Eraspe, qui emprunte avant tout la forme d'une ode à la solidarité humaine dont le monde a bien besoin. Je vous rappelle encore une fois, madame, monsieur, c'est le film d'ouverture qu'a choisi Marceline, que nous connaissons très bien. Nous avons hâte de vous rencontrer, prévu pour le 30 novembre à 19h, Antigone. Madame, monsieur, n'oubliez pas, 19h, le 30 novembre, j'y serai. J'espère que vous serez nombreux et vous pouvez gagner des billets gratuits en nous écrivant. Écoutez, toute l'équipe vous souhaite, je voulais parler de votre film vu en Europe ou ailleurs. Et si vous avez des projets, mais on pourra peut-être arranger un autre entretien très prochainement, hein, qui sait.
Ah, c'est bien. Là, on se voit le 30.
Oui, passez une très, très, très bonne journée. Au revoir et à la prochaine.
Merci, au revoir.
Pouvoir danser, c'est le plus grand signe de liberté. Pouvoir chanter, c'est le pouvoir même de la liberté. Mon tour. On a quitté nos pays en grand nombre, laissant derrière nous ces tunnels sombres. La fin justifie les moyens. On prend la mer, déterminé à échapper à la misère. Même si on fait les derniers mètres à la nage, notre but c'est d'atteindre l'autre rivage. Qu'importe les orages, chers dirigeants, qu'à nos yeux croisent l'Occident, on sort la ligne.
Et oui, madame, monsieur, à ne pas rater, Antigone, le 30 novembre à 19h, j'ai une paire de billets pour vous, Hot Dogs, Ted Rogers, 506 rue Blue West, soyez des nôtres. Et tout au long de la semaine, allez sur le site www.cinefranco.com pour avoir tous les détails sur les films de la semaine, à ne pas rater. Merci, bravo à tous les gagnants. Et Darnas Theroux, Peter Biro, Elisabeth Drapeau, Fondation Sylvain Linaindor, Diane Chapon-Laure qui était des nôtres la semaine dernière, Wilfred The Forge, thank you very much, Bertrand Defoe, Education Consulting, Noir Epsi, les éditions prises de parole et tant d'autres, je vous remercie personnellement du fond du cœur. Grâce à ces personnes que je vais nommer, nous avons pu voyager à travers la planète. Peter Maître, Peter Biro, il fait ça bien, pas mal. Avocat, et j'espère que ce sera des nôtres très prochainement. Claude Guillemin, Saad Ashraibi, réalisateur marocain qui est à Toronto. Sophie Deraspe, merci beaucoup. DJ Devera, TV5 Monde, RFI, France 24. Ici Eric Cadet, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous souhaite un bon cinéma, bon dimanche, bonne semaine.
Oh, Africa, now you're born. que bala mer ñu bolo délégué.